Moi, je me proposais d'aborder avec vous aujourd'hui une histoire assez connue, c'est celle des possédés de la ville de Loudun. Nous sommes en 1632, dans le Poitou français. Alors que les guerres de religion opposant catholiques et protestants commencent tout juste à s'apaiser, et que la peste se tarit enfin, la ville de Loudun est prise d'un étrange délire. Le couvent des Ursulines est le théâtre de cas de possession diabolique. Plusieurs nonnes sont la proie du démon, et notamment la mère supérieure, Jeanne des Anges, qui semble la plus concernée par les assauts du diable. Cris, blasphèmes, contorsions incroyables et émoi érotique rythment désormais le quotidien du couvent. Les exorcistes sont dépêchés sur place et questionnent les nonnes sur l'auteur de ce maléfice. Très vite, un nom s'échappe des lèvres de la mère Jeanne des Anges, bientôt suivi par plusieurs de ses sœurs. Celui d'Urbain Grandier, un prêtre de la ville. Urbain Grandier jouait à l'époque d'une réputation sulfureuse. Séducteur invétéré, libertin, il est l'objet de nombreuses cabales en raison de ses conquêtes amoureuses et de ses positions politiques. Il a notamment publié un traité contre le célibat des prêtres, un pamphlet acerbe contre le cardinal Richelieu, et il a, en outre, refusé d'accéder à la demande de la mère Jeanne des Anges de devenir le confesseur des Ursulines de Loudun. Au bout d'une longue procédure judiciaire, le prêtre est reconnu coupable de sorcellerie et est brûlé vif le 8 août 1634. Comme vous allez pouvoir le voir, là, une reproduction donc, de son bûcher. Sauf que la mort du prétendu sorcier, contre toute attente, ne met pas fin à la crise diabolique. Les démons continuent des années durant d'agiter les corps suppliciés des nonnes pour le plus grand plaisir des badauds. Car c'est tout un spectacle qui s'est mis en place à cette époque à Loudun. Les sœurs sont exposées régulièrement dans les églises de la ville, où des tréteaux et estrades sont aménagés pour l'occasion. Une foule de curieux et de dévots assistent aux exorcismes, à leurs convulsions effrayantes et à leurs cris, dans une mise en scène réglée où chacun joue son rôle. Du spectacle de Loudun, nombreuses sont les interprétations et réinterprétations. Alfred de Vigny, Michelet, Aldous Huxley sont parmi ceux qui ont écrit sur ce cas, sans oublier les cinéastes Ken Russell et Jerzy Kawalerowicz. Mais il y a aussi l'historien et philosophe jésuite Michel de Certeau, qui offre à l'affaire ses vues pénétrantes dans un livre sobrement intitulé « La possession de Loudun ». Il présente cet événement comme un théâtre de la parole et du voir, où se joue une comédie tant politique que spirituelle. Son investigation s'attache pour une belle part à étudier l'ouvrage autobiographique de la mère Jeanne des Anges, autobiographie qu'elle écrivit à la demande de l'un de ses confesseurs, le père Saint-Jure, plus de 10 ans après le début des possessions. Cette autobiographie, elle nous est donnée aujourd'hui par l'édition qu'en ont faite les médecins Gabriel Leguet et Gilles de la Tourette. Pour l'anecdote, tous deux sont des contemporains et disciples du médecin Jean-Martin Charcot, qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, est rendu célèbre pour ses études sur l'hystérie. L'hystérie qui devient, pour le chef de file de la Salpêtrière, l'unique grille de lecture des cas de possession démoniaque qui ont jalonné les siècles. Dès lors, abordant l'histoire de Loudun, l'hystérie semblerait aller de soi. À l'époque même de l'affaire, le médecin Claude Quillet, ami d'Urbain Grandier, parle au sujet des possédés d'hystéromanie, voire d'érotomanie. Depuis, les disciplines historiques et psychiatriques ont jugé que la vie religieuse cloîtrée était propice au surgissement de délires hystériques collectifs. Pourtant, il s'agit toujours d'un verdict d'homme. La parole de ces femmes que l'on soigne, que l'on régit, que l'on écrit, est toujours une parole rapportée, remaniée, prise en charge alors qu'elle ne demande qu'à être entendue. Ce spectacle du débordement diabolique, les historiens et les médecins s'y sont arrêtés, fascinés et attentifs au bruissement du corps, à ses convulsions, à ses symptômes. Quitte à se contredire parfois, comme lorsque les médecins Leguet et de la Tourette prétendent que le récit de Jeanne des Anges est encadré par un scripteur, en raison qu'elle serait analphabète, ce que De Certeau s'emploiera par la suite à réfuter. Mais si on lit le récit de la mère supérieure, celle-ci déclare, je cite, « que du latin, elle n'y entendait rien ». La vérité fait question ici. Vérité du biographique et de ses exégètes, vérité de la parole d'une femme prise dans la mascarade du politique, où elle cherche à se faire entendre, malgré tout et contre tous, vérité aussi du langage diabolique, qui est celui qui nous possède, sans que l'on en sache rien. Le langage de l'inconscient, en somme. Loudun est le siège d'une bataille entre les tenants de la possession et de son caractère surnaturel, c'est-à-dire les possessionnistes, et ses contradicteurs, notamment protestants. Mais c'est aussi une bataille entre les hommes du livre, médecins et prêtres, et une parole ensauvagée, séditieuse, parole du corps de ces femmes soumises à la question et qui y répondent par une autre énigme, Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici d'entreprendre une psychanalyse de l'affaire, ni de dresser le portrait nosographique de l'hystérie chez Jeanne des Anges. D'autres l'ont entrepris avant moi, et même de Certeau l'a rapidement évoqué. Bien que lecteur attentif de Freud, il n'a toutefois pas opté pour cet angle d'approche dans son étude sur Loudun, même si ses analyses suivent des chemins parallèles à celles de la question hystérique. Plus spécifiquement, et en tâchant de ne pas trop vous noyer sous la théorie, j'essaierai de m'inscrire dans le sillage du geste ouvert par de Certeau, autour de l'autobiographie de Jeanne des Anges, mais en interrogeant ce qui résiste, déborde et échappe dans l'écriture d'une possession. Alors venons-en au livre, à ses commencements même. De ce que dit Jeanne d'elle-même, elle fut une enfant capricieuse et vaniteuse. Elle entreprend son noviciat chez les bénédictines et y connaît des épisodes de ravissement et des visions. Très proche de son père, elle a le goût du paraître, de la scène, du mensonge aussi. De son propre aveu, elle use de 1000 stratagèmes pour intégrer le groupe d'Ursulines qui fonde un couvent à Loudun. « Je savais dissimuler, j'usais d'hypocrisie », confesse-t-elle dans son autobiographie au sujet de sa jeunesse. En outre, si son texte est écrit sur le modèle de la Vita de Sainte Thérèse, grande mystique qu'elle avoue avoir beaucoup lue, Jeanne admet aussi qu'elle lit des ouvrages dans l'espoir, je la cite encore, de paraître fille d'esprit. Une fois devenue mère supérieure, Jeanne des Anges passe son temps au parloir à écouter les rumeurs et les ragots du dehors. Pour elle, tout est spectacle. Au cœur de son délire, une grosseur apparaît sur son ventre. Les médecins diagnostiquent une grossesse diabolique, car elle en ressent les douleurs et ses seins produisent du lait. Chacun est berné, abusé dans cette mise en scène. La vocation de la Sainte Vierge, comme il se devait, viendra à bout de la tumeur dans de terribles vomissements de sang. Jeanne est donc passée experte dans l'art de la dissimulation, mais ses manigances n'échappent pas toutefois à son confesseur, le père Surin. Il lui dit ainsi comme elle le rapporte. « Faites effort sur vous et tâchez de m'ouvrir votre cœur. Il n'est plus temps que vous dissimuliez. Votre ennemi se sert de votre naturel pour mieux couvrir son jeu. » Ainsi, la femme est son propre ennemi dès lors qu'elle ne se soumet pas à la demande du supérieur, qu'elle n'accepte pas de lui ouvrir son cœur. Cette résistance est le plus sûr lieu d'arrimage des démons. Le père Surin est intransigeant sur ce point. Les tourments dont Jeanne souffre ne viennent que ses propres défauts dont le diable et ses sbires tirent parti. Avec ce confesseur, les exorcismes sont bien vite relégués au second plan, l'oraison et la conversation, sorte de cure par la parole, devenant la pourvoie privilégiée pour guérir. Quoi de plus logique lorsque l'on admet que la menace ne vient plus tant de l'extérieur que de l'intérieur, de ce qui se trame en elle et dont elle est de la sorte tenue pour responsable. Mais quelle est donc la place de la vérité ici ? À l'époque, le credo veut que, je cite, « le diable dûment contraint par les exorcismes est tenu de dire la vérité ». Mais peut-on faire confiance au diable ? Et à ces nonnes que certains accusent de simulation ? L'exorciste doit ruser avec le diable et ses victimes pour les faire parler. Le diable qui est communément appelé le père du mensonge. L'exorciste doit donc composer avec la tromperie même. Par conséquent, qui nous dit qu'il n'en est pas lui-même la victime ? Au sein de cette arène de l'illusion, la vérité semble bien éclipsée. Jeanne elle-même en sortait indemne. Rien n'est moins sûr, comme nous l'apprennent les médecins Leguet et de la Tourette, et je les cite dans leurs commentaires de l'autobiographie. Chez les hystériques, la réalité des symptômes n'exclut pas leur simulation, et celle-ci était évidente dans le cas actuel. La puissance de l'autosuggestion chez Jeanne, capable de feindre une grossesse, est indéniable. De ce qu'elle en dit dans son ouvrage, elle croit à la réalité de ses crises. Elle prend même plaisir à écouter le récit qu'on lui en fait à son réveil. Comme nous dit de Certeau, finalement, c'est elle si elle joue ou si elle est jouée, lorsqu'en obéissant à l'invitation de ses nerfs, elle fait de son corps malléable et suggestible le langage de son autopunition et de sa revanche. Ces mensonges du corps expriment sa vérité, moins consciente mais aussi moins inconsciente que ne l'affirme tour à tour la possédée. Une vérité impossible à situer au-delà ou en deçà de la frontière qui sépare l'insincérité de la simulation. Sur cette frontière ambivalente du vrai et du faux se joue son narcissisme, car elle se pense élue, distinguée entre tous et n'est prête à céder en rien sur ce point. Au fur et à mesure que les démons sortent de son corps, à la suite des exorcismes, ceux-ci marquent sa main gauche d'un nom, comme nous pouvons le voir sur les gravures à l'écran. Vous voyez, là, sur la main gauche à chaque fois représentés les noms. Et donc, quels sont-ils ces noms ? Il y a par d'importance, et donc par inscription sur la main, celui de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, de Joseph, et enfin de Saint-François de Sales. Ces stigmates sont des décorations qui commémorent les victoires sur l'enfer. Pour Jeanne, ces marques sont l'objet de toute son attention. À sa demande, un pèlerinage est organisé pour visiter le tombeau de Saint-François de Sales. Pur prétexte, semble-t-il, car au lieu de se rendre directement à la chapelle d'Annecy et de s'y recueillir, elle entreprend un long pèlerinage à travers toute la France, une sorte d'exposition itinérante pour célébrer sa victoire sur les démons et la porter en gloire. Jeanne y présente sa main sculptée par le diable à tous les grands du pays, politiques, ecclésiastiques, juges et nobles, mais aussi au petit peuple, dont elle relate avec un évident plaisir la fascination. Tandis que le spectacle répété des exorcismes à Loudun s'affadissait au fil des années, tournant même au ridicule, elle trouve ici une nouvelle occasion d'être l'objet de tous les regards. Une image idéale d'elle-même, en quelque sorte. Les foules se pressent pour la voir, des gens sont piétinés, des portails défoncés, elle reste des heures à exhiber sa main posée sur un coussin. Comme elle le raconte, Richelieu déclare lors de leur rencontre « Il n'est point de plus grande preuve de la vérité de la possession que la continuation de ces sacrés noms qui se renouvellent avec tant d'éclat, laquelle Dieu opère quand il le juge nécessaire. » Le médecin personnel du cardinal, qui ausculte la main de Jeanne à sa demande, assure de son côté « Monseigneur, mon sentiment est que dans l'impression des noms sur la main de la mère, il n'y a rien qui soit ou de la nature ou de l'industrie des hommes. » Ainsi, l'évidence de la possession passée est attestée. Le savoir des médecins lui-même s'avoue vaincu devant la surnature qui s'offre à son investigation. Certains ont beau essayer de les faire disparaître par des frictions, voire même de les cisailler, les stigmates pourtant demeurent, se renouvellent, agissent. Plus proche de nous, les médecins Leguet et de la Tourette justifient ces stigmates par un problème vasomoteur dont l'origine se trouverait dans l'autosuggestion érotique. Hystérique, pardon. Pourtant, ces marques témoignent d'une vérité surnaturelle que les démons y ont laissée. Mais pourquoi la main, justement ? S'agit-il, comme l'avance de Certeau, du pendant au doigt sacré des exorcistes, intimant l'ordre au diable de sortir de son corps en une réplique du doigt de Dieu lui-même ? Sans aucun doute. Et le fait que ce soit la main gauche qui est ainsi décorée n'est pas anodin, puisque la main droite est la main de Dieu par excellence, au contraire de la main gauche, la main profane, la main profanatrice même ici. Il y a aussi tout lieu de penser que pour Jeanne, cette main écrite remplace en une sorte de pastiche la main de l'écriture. Cette main de l'écriture qui est celle de la parole couchée sur le papier, sur le livre, fétiche du savoir. À cela, elle oppose un autre simulacre, un autre semblant, sa main stigmate. Elle le concurrence, en quelque sorte, et lui oppose un défi. Dans cet affrontement, pourtant, Jeanne connaît également ses ratés. Ainsi, si l'un des démons parlant par sa bouche a annoncé qu'il ne sortirait de son corps que dans une église, dans la ville de Saumur, il est, contre toute attente, expulsé quelques jours plus tard à Loudun. Son propre oracle se montre donc défaillant. Mais n'est-ce pas plutôt l'échec d'un autre diabolique et jouisseur qui parlait par sa bouche ? Un autre qui entend jouir d'elle, tout en se pliant au cirque de l'exorcisme et à son langage codifié, et dont elle représenterait les manques et les défaites. La possession serait donc un corps fragmenté, anatomie imaginaire d'un corps morcelé où les symptômes, comme les démons, se loge en divers points de la chair, qui du front, du cœur, des côtes, etc. Mais ce serait aussi le corps parlé qui y jouit, insupportable. Au bout du compte, son corps, Jeanne, semble réinvestir, elle le repossède. Son corps parle pour elle à travers les cris des démons, mais une fois le simulacre proche d'être tari, piégé dans la mascarade des hommes lettrés, elle amorce une nouvelle mascarade, ou plutôt elle en déplace la scène en faisant parler littéralement son corps à travers l'écriture des stigmates. Cependant, à l'origine, il y aurait une question. Jeanne le dit très clairement à son confesseur, le père Saint-Jules. Je la cite. « Quelquefois, je me plains de vous en moi-même, de ce que je pense, que vous ne prenez pas assez d'empire sur moi, et que vous me laissez faire tout ce que je veux. Je vous supplie, mon très cher père, de ne me laisser à ma propre conduite. » Qu'il s'incarne dans la figure de Grandier, puis de ses confesseurs successifs, le père Surin puis le père Saint-Jules, Jeanne est toujours en quête d'un directeur, d'un maître. Lacan ne dit pas autre chose à propos de l'hystérique. Je le cite. « L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur qui régner. » Fin de la citation. Si elle quête celui qui pourrait la saisir, la définir, l'hystérique n'en cherche pas moins à le faire chuter. En s'offrant à son savoir, elle entend paradoxalement le maître en défaut. Si elle peut le disqualifier, il n'est pas celui qui sera à même de lui apporter la réponse qu'elle attend. Elle ne saurait être dite toute par le maître. De là sa position d'éternelle insatisfaite, d'un désir du désir dont elle veut être l'enjeu d'une frustration perpétuelle. pari impossible s'il en est, d'une revendication qui ne s'arrête jamais pour l'hystérique, que Lacan a aussi appelé le mannequin ou le puppet en anglais. Au retour de son pèlerinage, Jeanne tombe malade et souffre d'une crise plus spectaculaire qu'aucune autre. Un éminent médecin est sommé de se rendre à son chevet. Son diagnostic est sans appel, la mort est proche, l'extrême onction doit lui être donnée. Pourtant, comme elle le révèle dans son autobiographie, elle a averti secrètement par la voix de son ange gardien qu'elle sera guérie si, et seulement si, elle ne dit mot à quiconque de la certitude de sa guérison prochaine. Le miracle ne manque pas, elle se lève en pleine forme et accueille avec le sourire de la béatitude le médecin venu constater l'agonie. Celui-ci repart, furieux d'avoir été trompé. Sa victoire est complète, face au savoir médical qu'elle a ébranlé. Ainsi libérée puis guérie, s'annonce dès lors pour Jeanne la voie mystique. Après la période de la possession, s'ouvre le règne de l'exaltation et des conciliabules secrets avec son ange gardien et les fantômes venus la visiter. Ange que l'on peut voir ici là, dans la représentation, sur la vignette à gauche. Sur ces vieux jours, Jeanne établit une véritable foire au miracle à Loudun, prédisant les meilleurs moments pour les mariages et les accouchements et prodiguant les conseils que lui susurre l'au-delà. Ce faisant, elle fait état d'un savoir autre, tout autre, une connaissance qui dame le pion à celle proprement surnaturelle qui était jusqu'alors l'apanage des prêtres. C'est dans cette même période qu'elle écrit son autobiographie, portée par un espoir de légitimation, d'édification aussi, en retraçant le parcours d'une femme dite pécheresse vers l'acceptation de Dieu. Un modèle de piété, une vita, mais aussi une mise en scène de soi et de sa légende. Irait-on donc vers ce que le psychanalyste Gérard Pommier, dans son livre « L'exception féminine », a identifié de la particularité mystique, à savoir que, semblable en cela à la perte qu'appelle la jouissance de la femme, l'union mystique jouit de cet effacement particulier du corps qui commence au point même où le signifiant déclare forfait. Avec la phase mystique, Jeanne des Anges pointerait dans son ravissement, dans son extase avec et dans Dieu, cet au-delà du signifiant qui est le propre de la féminité selon Lacan, soit de ne pas être toute prise dans la logique phallique. Par conséquent, elle scellerait le mystère d'une jouissance de l'autre purement virtuelle et innommable, car située au-delà du signifiant, du symbolique, qui est du ressort de la castration. Il serait facile de conclure que la cure par la parole a donc opéré, et que Jeanne, libérée des démons, est libérée d'elle-même. Pourtant, ce serait oublier un peu vite un geste significatif de son rapport au féminin. Lors de ses crises démoniaques, elle s'en prenait parfois à ses sœurs en déchirant leur voile, ou en leur arrachant avec ses dents. Du voile qui impose la vie recluse et qui manifeste l'emprise de l'Église et de Dieu le Père, elle ne faisait donc qu'une bouchée. Mais ce voile représenterait aussi peut-être ce que Joanne Rivière et Lacan à sa suite appellent la mascarade féminine. Cette mascarade est ce qui masque l'absence de phallus pour la femme tout en entretenant le mystère de la féminité, de cet impossible à être dite et à se dire. Danse au-dessus de l'abîme où la femme feint que se cache autre chose derrière le voile, une jouissance qui lui est propre et qui restera toujours méconnaissable, indicible. Par son geste, Jeanne montre que derrière le voile ne loge qu'une absence. Elle donne à voir vraiment ce qu'est cette mascarade du féminin où la femme est prise si elle ne veut pas entrer de plein pied dans la parade masculine. Une mascarade où Jeanne, elle, ne se tient pas. En tout cas, elle ne tient pas à s'y tenir. En arrachant le tissu de ses sœurs, la mère supérieure dévoile donc qu'elle n'en est pas dupe, qu'elle se situe ailleurs tout autant que la femme, ainsi exhibée, mise à nu, ne se résume pas à un mystère masqué, ni à être une nonne parmi tant d'autres. De la mascarade figurée par le voile, Jeanne en actualise la fonction ambivalente, cette qualité de trompe-l'œil qui voile et dévoile dans un même élan. Geste apatride, geste de défi contre les autres, qui échappe, qui résiste en dernier lieu aux positions, si indécidable soit-elle. Si De Certeau a parlé au sujet de l'affaire de Loudun d'une rébellion féministe, un ensemble sexué luttant contre une société d'hommes détenteurs du savoir et du pouvoir, le propos serait donc à nuancer. Car il n'y aurait pas la femme, un ensemble fantasmé et homogène faisant corps commun, mais plutôt une galaxie hétéroclite de femmes à dénombrer une par une. L'hystérique, en dernier lieu, ne rejoindrait ni la mystique, ni la femme. Son savoir est irréductible par nature. Elle se tiendrait seulement sur le roc solitaire d'une question qui doit nécessairement rester sans réponse. Serait-ce là son dernier défi ? L'histoire, heureusement, ne le dit pas. Je vous remercie.